Je voudrais que nous fassions une première lecture dans le livre de la Genèse. Au chapitre 6. Verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Un autre passage pour compléter celui-ci, dans Hébreux chapitre 11. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et j'aimerais bien vous le relire dans une autre version. C'est dans sa foi en la parole de Dieu qu'il avertissait d'une chose imprévisible, que Noé, rempli d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Un troisième passage que vous ne chercherez pas, mais que tout le monde connaît bien, dans Matthieu 24, 37, Jésus a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ce qui me permet de dire en introduction que la vie de Noé et les conditions dans lesquelles il a vécu sont extrêmement importantes puisque Jésus a dit que ce qui a été sera. Et ce qu'il a vécu, nous le vivrons. Les conditions se répéteront. Les passages que je vous ai lus peuvent se résumer à peu près de la manière suivante. Dans un temps très hostile, Noé marchait avec Dieu. Extrêmement hostile. Et Noé a marché avec Dieu. Aussi, Dieu lui a-t-il communiqué sa parole pour le sauver et le délivrer, lui et sa famille. Et ce que Dieu a fait pour Noé, il le fera encore à la fin des temps, puisque tout se répétera à la fin des temps. Il y a plusieurs pensées que je voudrais vous laisser. La première, c'est celle-ci. Quels que soient les temps, les circonstances et les conditions, Noé a marché avec Dieu en son temps. La deuxième pensée, par contre, il n'est pas possible de marcher avec Dieu et de délaisser la parole de Dieu. Et la troisième pensée, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin des temps. Dieu est prêt à aider ceux qui lui resteront fidèles. Donc notre première pensée, Noé a marché avec Dieu en son temps. Vous ne pouvez pas savoir, mes frères et sœurs, comme c'est une pensée qui me fait du bien. En son temps, Noé a marché avec Dieu. Peut-être qu'il a pensé qu'il aurait mieux marché dans d'autres temps, mais le temps n'était pas bon, le temps était hostile, le temps n'était pas favorable, il a quand même marché avec Dieu. Et il a marché avec Dieu longtemps. Quand il allait à la réunion, il était tout seul. Il était tout seul. Ils avaient tous abandonné. Quand il voulait prier, personne ne priait avec lui. Il était tout seul. Et cela n'a pas empêché cet homme de rester fidèle à Dieu et de marcher avec Dieu. Et chaque jour, il subissait la pression de ses semblables, parce que ça ne devait pas être facile, lorsqu'il construisait son arche, lorsqu'il parlait de Dieu, car il était un prédicateur, nous dit par ailleurs la parole de Dieu, il annonçait le message de Dieu, la délivrance que Dieu lui avait promis, et il faisait rire tout le monde. Personne ne le croyait quand il chantait « Cherchons-les, cherchons-les », les gens riaient. Il subissait chaque jour la pression. Peut-être que quelqu'un dans cette salle se dit « Ah, si je n'étais pas si isolé, qu'est-ce que je marcherais avec Dieu ? Ah, si je n'étais pas malade, si j'étais en bonne santé, je marcherais avec Dieu. Si ma famille me comprenait, je marcherais avec Dieu. Si j'avais un autre caractère, si j'avais un autre tempérament, si j'avais d'autres conditions, je serais un bon chrétien. Ou si j'avais vécu dans un autre temps, je serais certainement un très bon chrétien. Si l'Église n'était pas si loin, si éloignée, si je n'habitais pas si loin, qu'est-ce que je serais un bon chrétien ? Si financièrement je n'avais pas autant de difficultés, je marcherais avec Dieu. Si les exemples que je vois de chrétiens qui ont sombré ou de chrétiens qui ne sont pas très très bien inspirés et qui me donnent un mauvais exemple, si les exemples étaient meilleurs, je marcherais avec Dieu. Mais voilà, même dans ce temps-là, Dieu nous invite à marcher avec lui, frères et sœurs. Même si le chemin est difficile pour vous, je ne sais pas comment est le chemin. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont un chemin plus difficile que d'autres. C'est vrai cela. Mais je sais qu'il y a des tournants pour chacun. Des fois ça monte et des fois ça ne monte pas, ça descend. Des fois il y a des ornières, des précipices, des dangers, des tentations, des épreuves. Quel que soit le chemin, Dieu vous invite à marcher avec lui. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, Dieu vous invite à marcher avec lui, ne vous abandonnera pas. Et de la même manière qu'il n'a pas abandonné Noé, puisqu'au contraire, Dieu a été sensible et a apprécié la vie de Noé, du coup, Dieu a parlé à Noé et il est venu à son secours pour le sauver. Eh bien, de la même manière, Dieu vous parlera, vous communiquera ses pensées, vous donnera sa parole, la rendra vivante, il vous aidera. Dieu ne vous laissera jamais, jamais tout seul. Jamais. Joseph n'a pas dit « Ah, si mes frères étaient moins cruels, qu'est-ce que je serais un fidèle de Dieu ?» Job n'a pas dit « Ah, si ma femme me soutenait davantage, comme je serais un fidèle de Dieu ?» Le prophète Daniel n'a pas dit « Si je n'étais pas à Babylone, si on ne m'avait pas exilé et banni, si j'étais resté à Jérusalem, comme je serais un fidèle à l'égard de Dieu. » Dans les circonstances où ils se sont retrouvés, ils ont marché avec Dieu. Vous êtes d'accord, frères et sœurs ? C'était des circonstances difficiles pour les uns comme pour les autres. C'était des moments troublés, des moments difficiles. Et même si vous avez des jours difficiles, la Bible dit « Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. » Mais Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours. » Et même il rajoute, pour être encore plus précis, « Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. » Donc, nous pouvons marcher avec Dieu. Que personne ne dise « Pour moi, c'est plus difficile, je n'y arrive pas. » Le Seigneur le sait, le Seigneur connaît toutes choses. Et si quelquefois il permet un chemin plus difficile pendant un moment ou pendant certains temps, sachez que la grâce de Dieu est là. Sachez que l'amour de Dieu vous submergera. Dieu n'a pas laissé tomber Noé. En général, vous savez, la Bible est extrêmement concise et pas sentimentale du tout sur la vie de Noé, la préparation de l'arche, les railleries, les ironies des uns et des autres. On pourrait en dire des choses, vraies certainement, mais la Bible ne dit rien. Et puis, sur l'assistance de Dieu, comment Dieu a-t-il parlé à Noé? La Bible nous dit, Dieu l'a divinement averti. Un songe, une vision, un ange, quoi, une révélation. Dieu n'a pas laissé tomber Noé. Et il lui a dit, je vais te donner une espérance, je vais t'aider. Il y a un jour de jugement qui va venir sur toute la terre. Eh bien, je vais te donner un salut pour le jour de ce jugement. Dieu ne l'a pas laissé tomber. Et Dieu ne veut pas vous laisser tomber, frères et sœurs. La croix de Jésus-Christ, elle est là avec vigueur, avec vérité. Et j'imagine que, comme les gens du temps de Noé regardaient l'arche avec raillerie, les gens aujourd'hui regardent la croix avec la même raillerie. Comment, dans notre siècle de confort, de modernisme, comment peut-on parler de la croix, être sauvé par la croix? Eh oui. C'est pourtant le message, le seul message dont les hommes ont besoin. Dieu ne vous laissera pas. Un homme qui ne marche avec Dieu que lorsque toutes les circonstances sont favorables est un homme qui ne marchera jamais avec Dieu. Je vous choque? Non. Si nous attendons que toutes les circonstances soient favorables et que tout aille bien, nous ne marcherons pas avec le Seigneur. Donc la première pensée que je désire vous laisser et que je désire que le Seigneur imprime dans nos esprits est celle-ci. Quels que soient les temps, les circonstances, le chemin, les difficultés, Dieu vous propose de marcher avec lui et il ne vous laissera jamais tomber. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire Amen à cette première offre de Jésus-Christ? Il ne vous laissera jamais tomber. Les temps où nous allons peuvent être difficiles. Et ils peuvent devenir difficiles. Jésus a même dit que s'ils n'étaient pas abrégés, mais qu'il les abrégerait, ils peuvent être difficiles. Ils peuvent être difficiles sur le plan spirituel. J'y reviendrai dans ma troisième partie. Ils peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan moral, peut-être sur le plan familial, pour les uns, pour les autres. Les temps peuvent être difficiles. Jésus a dit, le frère livrera sa sœur, le mari sa femme, les enfants, leurs parents. Parlait-il de ce qui va se passer à la fin des temps? Parlait-il de particularités concernant le peuple d'Israël? Je crois que plus nous allons, plus la spiritualité deviendra difficile. Mais Dieu sera toujours avec vous, quels que soient les temps et les circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord pour marcher avec lui? Vous êtes d'accord pour marcher avec lui? Même si votre chemin est difficile? Même si une voix vous dit de temps en temps, mais tu pourrais marcher avec le Seigneur? Si! On t'aidait dans la famille, mais on ne t'aide pas. Donc, tu as des raisons de ne pas marcher avec le Seigneur. Non, frères et sœurs, pensez à Noé. Noé était tout seul et il a marché avec le Seigneur. Mon deuxième point va vous amener à comprendre qu'on ne peut pas marcher avec Dieu et traiter la parole de Dieu à la légère. J'ai dit... Il n'est pas possible de délaisser la parole de Dieu tout en marchant avec Dieu. Noé était un homme qui avait des scrupules, de la piété et une crainte respectueuse à l'égard de la parole de Dieu. Je vous l'ai lu dans Hébreux exprès. Quand Dieu l'a averti, il a écouté. Quand Dieu lui a parlé, ça l'a ébranlé, ça l'a bouleversé. Il s'est attaché à la parole de Dieu. C'est un sujet sur lequel je reviens souvent et je crois que si M. Gault me demande de le remplacer 10 fois, 10 fois je prêcherai peut-être sur ce même sujet parce qu'il est là en moi, il me hante. Je suis bouleversé de voir les églises abandonner la parole de Dieu, la modifier, l'abandonner. La Bible, c'est un livre pour certains, mais ce n'est plus le livre de Dieu. Imaginez, frères et sœurs, que demain matin on vous dise « Dieu vous a envoyé une lettre, vous a écrit ». C'est vrai, le Dieu du ciel, le Dieu éternel, le Dieu saint, le Dieu glorieux vous a écrit, vous allez recevoir la lettre demain matin. Quel comportement ! Je vous vois au bout de la rue, regardez si la casquette du facteur arrive. Je vous vois trépignant, impatient, ouvrir la lettre avec une extrême émotion. Que va me dire Dieu ? Que peut-il me dire ? Cher Daniel, Dieu s'adresse à nous par notre prénom. La parole de Dieu, c'est le livre des chrétiens. La parole de Dieu, c'est le livre des enfants de Dieu. Et il n'est pas possible, je ne vois pas comment un enfant de Dieu peut rester enfant de Dieu et s'éloigner de la parole de Dieu. D'abord, nous le savons bien, chacun de nous ici en a hélas fait l'expérience. Chaque fois que nous avons commencé à nous éloigner de Dieu, ça a commencé par un éloignement de la parole de Dieu. C'est vrai ou ça n'est pas vrai ? Nous aimons la parole de Dieu quand nous aimons Dieu. Jésus l'a dit. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et Jésus a même dit à son auditoire de l'époque, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc nous devons aimer la parole de Dieu. Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu est vrai. Il y a des gens qui ouvrent la Bible et puis dès le premier verset, dès la première page, ils doutent. Comment voulez-vous ne croire dans l'Exode, dans le Lévitique, dans Josué, dans les Psaumes, dans le Nouveau Testament, si la première page de la Bible déjà vous fait douter ? Comment avoir confiance dans la page 2 si la page 1 vous fait douter ? Frères et sœurs, il faut que ce soit une vérité qui nous pénètre, une vérité qui soit définitive. Ce que Dieu a écrit, c'est vrai, même si quelquefois nous ne pouvons pas l'expliquer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer dans la Bible, mais que nous expliquerons un jour. Alors, les jours de la création sont-ils de 24 heures, sont-ils de millions d'années ? Qu'importe, frères et sœurs, qu'importe. Ce que l'on sait, c'est que Dieu a créé au commencement les cieux et la terre. Après, c'était des jours de 24 heures. Y a-t-il vraiment cet intervalle entre le verset 1 et le verset 2 qui a duré des milliards d'années ? Alors les uns disent oui, les autres... Quelle importance ? Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et tout dans la Bible est vrai. Tout ce qui est écrit est vrai. Et Dieu ne l'a pas écrit pour satisfaire notre curiosité historique ou scientifique. Dieu l'a écrit pour nourrir notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un homme qui ne lit plus la parole de Dieu fragilise son âme, altère ses relations avec Dieu et n'a plus accès aux paroles de douceur, aux paroles de compassion de la part de Dieu. Quelqu'un qui aime la parole de Dieu, vous le verrez un jour les larmes dans les yeux devant un verset qu'il a lu 20 fois, et la 21e fois, il en est bouleversé. Parce que ce jour-là, Dieu touche son cœur par un verset de compassion, un verset d'amour. Il y a dans la Bible des prophéties, des avertissements. Jésus dit, prenez garde, je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai averti, veillez, priez, vous savez tout maintenant. Il y a donc des prophéties dans la Bible, il y a des paroles d'alerte, d'encouragement, des paroles d'incitation, d'excitation, de réveil. Quel que soit notre âge, notre ancienneté, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Un homme chrétien ne dit pas, oh, ça fait 50 ans, je peux me dispenser de lire la parole de Dieu. Il y a un verset que je voudrais que vous cherchiez avec moi, parce que vous l'avez lu, je suis sûr, bien, bien, bien souvent, et à partir d'aujourd'hui, il va vous frapper ce verset. Dans 2 Timothée, chapitre 4, nous allons lire le verset 13. 2 Timothée 4, verset 13. Quand tu viendras, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Un peu avant, il dit, maintenant, moi je sers de libation. Il est vieux, il est en prison. Il est usé, il est fatigué, il est dans les chaînes. Et il écrit à Timothée, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Vous savez, je connais beaucoup qui auraient mis « apporte surtout les manteaux ». Confort. Mais lui, il dit « apporte surtout les parchemins ». À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait sur ces parchemins? Vous croyez que c'était des romans à l'eau de rose qu'il se faisait porter? Les parchemins. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur les parchemins? Même l'apôtre Paul, pourtant il en avait eu des révélations. Il avait été en contact avec le Seigneur directement. Il avait reçu du Seigneur beaucoup de choses. Il n'a pas connu physiquement le Seigneur Jésus, parce qu'il s'est converti après. Mais Jésus est venu à son secours, et dans des révélations, dans des visions extraordinaires, tant extraordinaires qu'il dira qu'il ne peut même pas trouver de mots dans le dictionnaire pour exprimer ce qu'il a entendu. Tellement c'est magnifique. Et l'apôtre Paul, vieillissant, ayant écrit beaucoup d'épîtres, il dit « Apporte-moi surtout les parchemins ». Vous comprenez ce que je veux dire? Il avait besoin lui aussi de lire, de se replonger. Un homme, quel qu'il soit, et quel âge qu'il ait, a besoin de lire la parole de Dieu. Pourtant, vous savez, ils sont nombreux sur la terre, ceux qui ont frappé contre la parole de Dieu. Il y en a eu. Il y en a eu des hommes, des empereurs, des philosophes, des gens de toute nature, des rois, qui ont essayé de détrôner la parole de Dieu. Il y en avait un qui s'appelait Dioclétien, l'empereur romain, qui est mort au début du IVe siècle, qui a fait une guerre terrible contre les enfants de Dieu, qui en a brûlé beaucoup. Il était féroce contre tout ce qui était biblique. Et un jour, il a fait brûler des Bibles et élevé à la place, là où les cendres des Bibles étaient, une colonne, un monument. Il voulait témoigner. Sur ce monument, il a fait écrire que le témoignage était là, qu'il n'y aurait plus jamais de Bible dans le monde. Il ne savait pas que 30 ans après, un successeur qui s'appelait Constantin, l'empereur Constantin, celui qui s'est converti, je ne sais pas dans quelles conditions, récompenserait ceux qui auraient des Bibles. Et lui, il a payé pour que les gens apportent les Bibles. Il en est sorti de partout des Bibles. Ils sont nombreux. Il y avait un philosophe français qui avait écrit que dans 100 ans, il n'y aurait plus une seule Bible dans le monde. Vous connaissez ? Le prince de l'esprit, Voltaire. Dans 100 ans, il n'y aura plus aucune Bible dans le monde. Mais je peux vous dire une chose que vous ne savez peut-être pas, ou si vous le savez, je vais le répéter. Le 24 décembre 1933, ce n'est pas si vieux, le gouvernement britannique a acheté au gouvernement russe ce que l'on appelle le Codex Sinaiticus, c'est-à-dire des parchemins qui avaient été retrouvés dans le Sinaï et dont les Russes étaient propriétaires. C'est un archéologue allemand qui les avait trouvés. Et le gouvernement britannique, le 24 décembre 1933, a acheté ces parchemins qui n'étaient que la copie d'originaux pour un demi-million de dollars en 1933. Et chose extraordinaire, le 24 décembre 1933, le même jour, sortaient à Paris les œuvres complètes de Voltaire dans les librairies et ça valait 11 centimes. Voilà, je vous le dis pour que vous sachiez que tous les gens qui ont tapé sur la parole de Dieu n'ont pas toujours réussi. La parole de Dieu, elle est supérieure à tout, frères et sœurs. Elle est supérieure à tout. Peut-être vais-je choquer quelqu'un. Et je me suis demandé s'il fallait le dire. Mais après réflexion, je veux le dire. La parole de Dieu est supérieure aux dons spirituels que nous entendons dans la salle. Elle est supérieure aux dons de prophétie. Supérieure. Parce qu'il est écrit, je vous le dis, mais ne le cherchez pas, dans 1 Corinthiens 14:30 et dans 1 Thessaloniciens 5:21, qu'au sujet des dons spirituels et des prophéties, que les autres jugent et retenez ce qui est bon. Il n'est pas question des prophéties de Dieu, parce que les prophéties de Dieu, on ne les juge pas. L'apôtre Pierre a dit même que les prophéties ne pouvaient pas être l'objet d'interprétations particulières. Et même il est écrit qu'on ne peut pas enlever un iota, et que celui qui ajoutera ou qui retranchera quoi que ce soit de la parole de Dieu sera à son tour sanctionné par le Seigneur Jésus. Donc, s'il est écrit « retenez ce qui est bon », parce qu'il y a des choses qui sont moins bonnes, mais dans la Bible et au sujet des paroles de Jésus-Christ, il n'est pas dit « retenez ce qui est bon ». Il est dit que tout est bon et que tout doit être retenu. Vous ne croyez pas cela? Venez avec moi dans Hébreux. On va relier deux versets. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Et je voudrais relier ce verset avec le verset 1 du chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Je relis les deux versets pour en faire un seul. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. La parole de Dieu ne peut pas être remplacée. Elle ne peut pas être délaissée. Il faut que les enfants de Dieu y mettent tout leur cœur. Il faut qu'ils l'aiment, il faut qu'ils la lisent. Il faut qu'ils entendent la voix de Dieu. Il faut qu'ils y reviennent. Il faut qu'ils y trouvent leurs conseils. Il faut que Dieu éclaire leur chemin par sa parole. Ne vous laissez pas dominer par l'ennemi qui veut vous mettre en doute la parole de Dieu. Vous savez ce que Satan a dit dans le jardin d'Éden, il le dit aussi dans votre propre jardin à vous. Dieu a-t-il réellement dit, c'est-à-dire mettre en nous un doute concernant la parole de Dieu. Restons fermes, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Restons fermes, aimons la parole de Dieu. Des temps viennent où la parole de Dieu sera de plus en plus délaissée. Des temps viennent où la parole de Dieu sera modifiée. Ça va être mon troisième point. Des temps viennent où les hommes seront fatigués d'entendre les choses de la parole de Dieu. Faisons comme Noé. Noé, lui, il aimait ce que Dieu lui disait, parce que c'était son salut, parce que Dieu l'avait averti et Dieu lui préparait la délivrance par ses avertissements. Dieu nous avertit par sa parole. Dieu nous prépare la délivrance par sa parole. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai. C'est écrit ? Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole, eh bien moi aussi je te garderai. Oh mes frères et sœurs, la deuxième pensée que je voulais que Dieu répande dans nos cœurs, dans nos esprits, est celle-ci. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et tant que nous sommes de Dieu, nous écoutons ce que Dieu dit. Nous aimons la parole de Dieu. Et le jour où nous commençons à négliger la parole de Dieu, ça veut dire qu'une autre maladie plus grave est en train de germer et peut-être de nous brûler. En troisième point, je voudrais vous parler de la corruption qu'il y avait du temps de Noé, et dont Jésus nous a dit qu'elle se répétera à la fin des temps. Il y avait une corruption telle que Dieu a regardé la terre et il a vu que toute chair avait corrompu sa voie. Je ne sais pas si vous prenez le temps de réfléchir à cette expression. Toute chair avait corrompu sa voie. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'une voie correcte et petit à petit, ils ont dévié. Ils ont corrompu leur voie. Ils ne sont pas nés dans une voie corrompue. Ils ne se sont pas réveillés un matin, s'étant endormis le soir avec une pensée droite et intègre à l'égard de Dieu, et réveillés le matin ayant transformé leur mentalité contre Dieu. Non, leur voie s'est corrompue de jour en jour. Et toute chair, Dieu a beau regarder dans les avenues, les boulevards, les rues, dans les buildings ou les petites maisons, partout, toute chair avait corrompu sa voie. Seul un homme restait fidèle et marchait avec le Seigneur. Et c'est cela le message que j'aimerais que les assemblées, toutes les églises évangéliques du monde entendent. Je dis ça parce que cette semaine, on m'a fait passer une photo, je ne l'ai pas, mais je l'ai chez moi, d'une église évangélique qui a mis un grand panneau avec beaucoup de phrases écrites, et puis des phrases de ce genre: si vous êtes victime du mauvais œil, de l'envie, des maladies, de vices, de dettes, de misère, si vous êtes malheureux en amour, si vous êtes victime de sorcellerie, de magie, que rien ne marche pour vous, venez le vendredi soir à la prière violente. Voilà, c'est écrit comme ça. Et moi, ça me brise. Parce que je dis: Seigneur, mais où vont-ils? Et je sais que la prière est plus ou moins violente selon le prix que l'on y met. Et je trouve que les gens ont besoin d'entendre une vérité. La Bible ne change pas. Jésus a dit: le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Paul s'est senti obligé de dire aux Galates que l'évangile était un et qu'il n'y aurait jamais un autre évangile. Et il dit: mais quand bien même un ange du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est-à-dire qu'il est impossible même qu'un ange du ciel apparaisse et vienne modifier quelque chose dans l'évangile. Venez avec moi dans 2 Timothée chapitre 4. Et au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Attention, c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie inspirée. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit et c'est le Saint-Esprit qui a voulu que ce soit écrit dans la Bible. Et ce sont des mots, les mots qu'on va lire, sont des mots assez durs. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne parle pas des païens, hein, parce qu'il parle de gens qui avaient la saine doctrine. Il ne parle pas de païens et de gens qui ne supporteront plus la saine doctrine. Moi, je sais très bien, ou je sens très bien ce qui va se prêcher dans quelques années. Je le verrai ou je ne le verrai pas, vous le verrez ou vous ne le verrez pas. mais peut-être nos enfants ou nos petits-enfants l'entendront, on prêchera des choses autres que la parole de Dieu. Autres que la parole de Dieu. On prêchera la liberté. On prêchera la liberté sexuelle, peut-être. Parce que l'apôtre Paul a dit, il viendra des hommes qui prêcheront de ne point se marier. Ça veut dire quoi, cela? Ils diront, ne vous mariez pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, aimez-vous les uns les autres, sans vous marier. Ils auront besoin de fables, d'inventions. Une fable, c'est une invention. Alors nous avons besoin, grand besoin, de croire que Dieu ne change pas, que la parole de Dieu ne peut pas être modifiée. Jésus a dit, par exemple, dans Luc 18, 8, cherchez pas, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et vous savez qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, justement le chapitre 11 où nous étions tout à l'heure, que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc c'est exactement comme si Jésus avait dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-on des gens qui prêchent la parole de Dieu sur la terre ?» Parce que les gens n'auront plus la foi. Ils voudront des fables, ils voudront des choses faciles. Il y a ce verset aussi, où il est dit que l'Esprit dit expressément, tout à l'heure on était dans 2 Timothée, mais là c'est dans 1, chapitre 4, verset 1, l'Esprit dit expressément, l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Vous croyez que les démons vont prêcher la croix de Jésus-Christ? Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Noé a été sauvé du déluge parce qu'il avait un cœur qui respectait. La Bible nous le dit. Si elle le dit, c'est que ça avait une importance. Il était saisi d'une crainte respectueuse. Quand Dieu lui a annoncé qu'il allait détruire la terre par le déluge et qu'il lui a dit « construis une arche », il a été saisi d'une crainte respectueuse. Ça ne veut pas dire qu'il a eu peur du déluge et que chaque fois qu'il a vu une goutte d'eau, il a commencé... Non. Ça veut dire que ce que Dieu lui avait dit, il l'a cru, ça a porté fruit dans son raisonnement, dans son esprit, il y a attaché de l'importance, il a respecté Dieu et il a respecté la parole de Dieu. Nous avons besoin, nous aussi, de nous préparer et de dire tous les jours, « Seigneur, garde-moi fidèle à ta parole, que je ne varie pas. Que personne n'ait accès à mon âme, que personne ne fasse changer mon cœur, mon âme. Ô frères et sœurs, cette troisième pensée que je désire que Dieu répande dans vos cœurs ce matin, c'est soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Et puisque Jésus dit, ça se répétera, ce qui s'est passé du temps de Noé se passera, eh bien, sachons que le monde court vers la violence, le monde court vers l'impureté, le monde court vers la corruption. Les hommes s'éloignent de plus en plus de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus ils ont besoin de paix, plus ils s'éloignent de Dieu. Et plus ils s'éloignent de Dieu, moins ils ont de paix. Ils ne font pas ce qu'il faut faire. On trouve la paix en cherchant Dieu, en revenant, en mettant son cœur en ordre devant Dieu. Si vous êtes converti dans cette salle, vous devez pouvoir vous lever, témoigner que vous avez trouvé la paix le moment où vous avez dit « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés ». Alors quand il pardonne, quand le fardeau se détache, quand les liens se coupent, quand le sang de Jésus fait écran entre Dieu et nous, quelle paix, quelle grâce. Quand Jésus a dit à cette femme que tout le monde voulait lapider, que les gens étaient prêts à couvrir de pierres Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Et elle est là, toute tremblante. Tout le monde est parti. Et elle entend tout d'un coup cette femme, « Je ne te condamne pas non plus. » Vous vous rendez compte? je ne te condamne pas non plus. Puis c'était pas n'importe qui, le Dieu du ciel. Va et ne pêche plus. Pour le passé, c'est pardonné. Quelle grâce, quel amour, quelle bonté dans le Seigneur. Oh, ce matin, vous pourriez bien être là devant Dieu en disant « Je mérite qu'on me lapide, je mérite que le Seigneur m'oublie, je mérite qu'il me fustige, je mérite qu'il me traite. » Et puis, voilà qu'il parle. Oh, il n'a peut-être pas hurlé, mais enfin, les disciples ont entendu. Voilà qu'il parle. « Je ne te condamne pas non plus. » Va et ne pêche plus. À d'autres, il dit, tes péchés sont pardonnés. Ce pauvre homme qu'on descendait sur un lit, là, devant le Seigneur, à travers la toiture, par la terrasse, c'était difficile, toute une expédition, on le descend. Et puis, moi, je ne connais pas la vie de cet homme. Pourquoi Jésus, tout d'un coup, lui dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Vous ne croyez pas que ça a été comme une cascade d'eau rafraîchissante? Une cascade de paix qui a coulé sur son âme, et puis après ça a coulé sur son corps, parce que Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien, lève-toi et marche. Et vous savez la suite. Donc, fin de ma troisième pensée, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu aujourd'hui, la parole de Dieu dans 10 ans, la parole de Dieu dans 20 ans, la parole de Dieu quand vous aurez 75 ans, 80 ans, la parole de Dieu quand vous serez prêt de partir dans l'éternité, la parole de Dieu pour les enfants, la parole de Dieu, elle est vraie. Ne vous séparez pas, ne vous laissez pas séparer de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séparer. Noé est un homme qui a marché avec Dieu, il a marché avec Dieu, parce qu'il a respecté les paroles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, peut-être qu'il y a dans la salle quelqu'un qui avait besoin d'une phrase, d'un mot. Et je sais bien qu'en ce moment, l'ennemi est en train d'essayer de dissiper ce monde, d'essayer de lui faire oublier ce qu'il a entendu. Peut-être que quelqu'un devait entendre ce que tu as dit, je ne te condamne pas non plus, ou avait besoin de revenir à ta parole. Peut-être que quelqu'un a fermé sa Bible depuis longtemps et ne se rend pas compte du chemin qu'il prend. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris que tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction, que tout est vrai, que tout est racine, tout est parfait. Tu as surveillé ta parole, tu as surveillé les hommes qui ont écrit, tu as surveillé les imprimeurs, tu as surveillé toutes choses et tu as voulu que cette Bible nous parvienne ainsi. Seigneur Jésus, garde-nous d'oublier tes paroles. Nous voulons être de ces chrétiens qui savent que le ciel et la terre passeront, mais que les paroles de Dieu demeureront. Ô Seigneur Jésus, je te prie de bénir cet auditoire. Je te prie de bénir nos frères et sœurs qui ne sont pas là parce qu'ils se sont écartés de ta parole. Bénis-les, Seigneur Jésus, et compassion d'eux, ramène-les vers ta parole. Je te prie de parler au cœur de ceux qui commencent à prêcher un message qui n'est pas le message de l'Évangile. Ceux qui s'écartent de la croix, ceux qui prêchent une facilité alors que tu as prêché la sainteté, que tu as prêché le sacrifice à Golgotha. Seigneur Jésus, ne permets pas que nos églises s'éloignent de ta parole. Ne permets pas que le christianisme de ce pays s'écarte de ta parole. Ramène les hommes dans les sentiers d'autrefois. Ramène les cœurs. Suscite des hommes de Dieu pour prêcher le message de Dieu et pour que les hommes reviennent vers les temples, vers les églises, vers les assemblées et que l'on revienne chercher Dieu. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, et nous te prions de nous garder les uns et les autres. Amen.